Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes crêpes au sucre, mes tartines beurrées. J'espère que vous allez bien. De mon côté, beaucoup mieux depuis que je suis passée à un épisode du podcast toutes les 2 semaines. Je respire. Et je suis rassurée de voir que vous ne disparaissez pas du tout, mais qu'au contraire, vous avez plus de temps pour consommer les épisodes. Si j'avais les sous, j'emploierais quelqu'un pour gérer la com du podcast, le compte Insta, pour faire des petits extraits audio en reel. Mais j'ai pas diminué le nombre de sorties pour me rajouter une nouvelle charge de travail. Donc je le fais pas moi. Je fais juste un post à chaque nouvelle sortie d'épisode et je me dis que si plus tard les gens cherchent le dernier épisode, ils ont qu'à aller sur leur appli de podcast. Quand vous faites des stories avec l'épisode, je remets le lien. Voilà, ça me permet de partager et de faire des petites piqûres de rappel. N'hésitez pas. Parfois, ça me permet d'assurer la promotion d'anciens épisodes. C'est comme ça qu'un samedi, j'ai remis le lien de l'épisode avec Titu Lecoq parce qu'une auditrice avait fait une story et j'ai eu des retours de nouveaux auditeurs qui n'avaient pas écouté l'épisode à sa sortie. Justement, merci pour vos stories du Spotify Wrapped. Les chiffres sont chouettes, on a dépassé les 2,5 millions de téléchargements du podcast au total. Ça, c'est pas à Spotify, c'est en tout. On est exactement à 2,553,193 téléchargements depuis que le podcast est hébergé chez Acast, donc même un peu plus en vrai de vrai depuis le début. Et sur Spotify, les mecs que je veux ken est dans le top 10 des podcasts de 25 192 fans, dans le top 5 de 14 729 fans et le podcast préféré de 2531 fans. Mille merci de continuer à suivre mon travail fidèlement ainsi que celui de mes invités. Notre invitée d'aujourd'hui, la chanteuse Corinne, a une grosse actu. Elle fera son concert à la Cigale le mardi 12 décembre. Ça va être de la folie. On a enregistré cet épisode le jeudi 16 novembre dans sa chambre d'hôtel au Grand Amour. On est ensuite allé ensemble voir Drag Race sur scène aux Folies Bergères. Elle était de passage à Paris où elle ne vit plus et on en parle beaucoup au début de l'épisode. J'avais pris mon matériel, mais il y a eu un petit bug, donc je vais vous lire le poème qui n'est pas dans l'enregistrement. Un ingé son m'a écrit sur Insta pour me proposer de l'aide, mais vous imaginez bien que si j'ai pas les sous pour payer quelqu'un pour la com du podcast, encore moins pour rémunérer un technicien ou un monteur. J'ai déjà Aurélia à la programmation, mais je peux pas ajouter d'autres postes. Sinon, je pourrais carrément prendre aussi une photographe. Mais les selfies marchent bien, et puis c'est bien d'être seule avec mon invité. Là, on était au bord du lit d'hôtel de Corinne, le zoom posé sur sa petite table de chevet, et je vous lis donc le poème que j'avais écrit. Chère Corinne, nous nous sommes rencontrés au Rosa Bonheur, à une patchole de Barbara Butch où tu avais fait un concert fougueux sur le bar. Je connaissais bien sûr déjà ta musique disco-pop, si dansante, joyeuse, lumineuse, ton tube Il fait chaud. Et pour préparer notre discussion d'aujourd'hui, j'ai écouté en boucle le reste de ta discographie et je suis fan de Tutta Sola avec le cultissime Pino D'Angio de Quale Idea et Ok Ok. Quel duo incroyable, quel clip merveilleux. Comment te sens-tu à quelques semaines de la Cigale? Que préfères-tu? La scène, l'écriture, la composition, les concerts à Paris, en tournée. Comme tu es l'une des, si ce n'est la première chanteuse que je reçois dans le podcast, j'ai très envie de découvrir ton processus de création. Et voilà, c'était le poème, et donc on a parlé de son process. Vous verrez, Corinne fait l'éloge de la lenteur dans le travail. Elle nous confie sa nécessité de nature de pouvoir rêver et s'échapper. Elle parle de ses collabs avec Polo & Pan pour le remix Pluie Fine, celle avec Pino D'Angio jusqu'au tournage du clip. On s'est beaucoup questionné sur nos images d'artistes, comment les casser ou du moins les faire évoluer. Bonne écoute.
moi, je suis un être lent. Je suis très lente depuis toujours. Je suis quelqu'un de... c'est une force, mais c'est peut-être aussi un frein par moment parce que je suis très dans le présent. Je me projette pas beaucoup, donc je suis pas une grande angoissée de l'avenir, de la mort, de tout ça. Je me projette pas énormément et je suis dans ce que je fais là. Et du coup, j'ai toujours été... un peu entre guillemets à la traîne par rapport à ce que la société attend, tu vois, même à l'école et tout, j'étais toujours très à la tête dans les nuages, à écrire des pièces de théâtre, à imaginer des personnages, à penser, tu vois, regarder les nuages, ouais, et pas du tout à être ouais dans des résultats, dans
des business plans,
tu vois. Et du coup, même là, bah je pars à la campagne et en fait, je reviens à un temps qui m'appartient mieux, qui est plus en lien avec ma nature, mais qui à la fois est pas très en accord avec le temps parisien, avec le temps de mon métier, qui est un temps très rapide, d'autant plus aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, avec les réseaux sociaux, etc., où, où tout se consomme très rapidement.
C'est clair.
C'est assez fou.
C'est vertigineux.
C'est vertigineux. Donc, c'est vrai que là, mon rapport au temps sur cet album-là, il est très différent, et je l'apprécie, et à la fois, je vois bien que je suis à contre-courant, tu vois, de ce que demande en fait la promotion d'un album, de ce que demandent les médias, de ce que demande
d'être là tout le temps ouais, jusqu'au burn-out en fait. C'est aussi le risque, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors après, moi j'étais pas du tout là-dedans, hein. Moi je suis pareil, une fois de plus ça s'est fait, je me suis juste écoutée, j'ai eu cette envie, j'ai eu un enfant, j'avais une folle envie de retourner à la nature, d'être dans quelque chose de plus calme, de l'élever. Il a le temps, le monde est monstrueux, il a le temps de le découvrir.
Oui.
Vraiment
de bien respirer un petit peu.
Et en fait, on a besoin de cette insouciance de l'enfance. Je pense que là, nous, toutes les deux, on est deux adultes qui conservons et qui cultivons l'insouciance de l'enfance, sinon on ne serait pas là.
Non, mais c'est clair. Donc, et moi, même si je suis parisienne, en fait, on avait une toute petite maison de campagne à côté de Soulac, en Aquitaine, que mes parents avaient acheté pour une, tu vois, vraiment que dalle. Toute petite maison. Mais qui pour moi était un palais, quoi. Et résultat, on y allait tout le temps. Et c'est vrai que mes plus beaux souvenirs d'enfance, en fait, c'est là-bas. Tu gardes pas vraiment de souvenirs. Je sais pas, est-ce que j'ai des souvenirs de Paris ? Bah, j'ai des souvenirs de Fontainebleau, tu vois, où on allait se balader le dimanche. Un peu de Tuileries, un peu de Louvre, un peu de. Mais beaucoup les vacances à la campagne.
Ouais, c'est ça.
Et
les échappées.
Les échappées quand tu peux marcher, les odeurs dans la forêt. Non, franchement, ça me fait rêver. Faut peut-être pas trop que je le dise, justement, parce que je me dis, sinon, ça va donner le plan à tout le monde. Mais on m'a parlé aussi de Compiègne.
Je connais
ça
pas
à une heure de Paris aussi
c'est incroyable.
Bah ouais. Et après vous vous êtes pas dit avec ton mec vous alliez diviser la semaine en deux.
Après c'est une histoire financière aussi, c'est que vivre à Paris ça demande beaucoup d'argent. Et donc il y avait cette problématique de on n'a pas les moyens. Moi je viens pas d'une famille où on m'a laissé un bien, etc. Donc en fait on n'avait pas de bien à Paris et donc on s'est vite décidé en fait parce que c'était soit on trouvait une maison très loin, c'est-à-dire plus Bourgogne Perche, vraiment loin pour les week-ends. Mais il y avait aussi, on s'est rendu compte que c'était quand même à chaque fois une sorte tous les week-ends, une sorte de fuite où tu cherches à partir de Paris et en fait, t'es un peu comme un mouton à faire comme tout le monde, à tous les week-ends partir dès que c'est le printemps, tout le monde part, tu vois, dans sa maison de campagne et donc t'as les embouteillages, t'as tout ce qui va avec. Et en fait, on s'est dit non, il faut qu'on aille au bout de ce qu'on ressent, de ce désir qu'on a d'avoir envie d'être plus proche de la nature. Mais c'est aussi, et ça je le dis très clairement, un souci matériel. Moi je voulais retrouver aussi une liberté matérielle parce qu'à Paris ça devenait un peu délirant.
Grave.
Et que je voulais arrêter aussi de vivre dans cette ville. En tout cas, entre quand je suis arrivée à Paris, j'étais très jeune, mes parents ne m'aidaient pas, enfin tu vois, donc j'ai dû travailler tout de suite.
Mais c'était caissière,
une ville.
C'est ça ?
J'ai été caissière à la Fnac, j'ai été vendeuse pour le comptoir des cotonniers, j'ai fait du babysitting longtemps, j'ai été après beaucoup dans la restauration et j'ai adoré, j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires qui sont toujours mes amis. Donc ça a été une famille, hein, vraiment pour moi, les gens de la restauration. Mais il est vrai que j'avais la sensation qu'on pouvait encore vivre avec peu de moyens. Moi, je suis arrivée, j'avais réussi à trouver un plan studio à 350€ par mois. Après une colocation géniale et tout. Là, je trouve que la ville s'est vraiment durcie, que la disparité sociale devient de plus en plus grande. Et ça a commencé à me... j'étouffais un peu aussi là-dedans.
Je comprends.
J'avais du mal, quoi, à continuer à vivre comme ça, à faire semblant de pas voir les enfants qui sont par terre, à faire semblant de pas voir... Parce que ça heurte trop. Et en fait, je me suis dit, non, je veux... Voilà, c'est pas fuir la réalité, c'est plutôt être dans une action concrète et essayer après, justement, en étant plus loin, mais dans un endroit où j'ai plus d'espace, de mieux travailler sur des sujets qui me touchent, sur des... Enfin, tu vois.
Ben, je vois, mais moi, tu sais, je suis partie de Paris d'une certaine manière. Je suis à Bagnolet maintenant.
Ouais.
Bon, c'est la banlieue, c'est juste à côté. Mais déjà, quand même, t'as moins tout le temps l'impression... d'être un pauvre par rapport au prix de Paris, en fait. Je veux dire, tu passes devant des vitrines de magasins, t'es là, ah ouais, d'accord. Ou même tu te fais un resto, ou même tout simplement, tu vas aller entre deux rendez-vous, t'es un peu pressé, tu prends un taxi, t'es là, ah d'accord, 30 balles et tout. Enfin, tu dépenses énormément d'argent. Et ouais, les loyers, de toute façon, c'était pas possible. Donc, il y a un truc. Tu sais, en fait, il paraît que les salaires des Américains sont tellement élevés que pour eux, quand ils viennent à Paris, en fait, c'est le tiers-monde.
Ouais.
Non, mais je te jure. Et donc, ils achètent, en fait, des. T'imagines un penthouse à New York, à Manhattan, ce que ça coûte pour eux, ils viennent, ils se prennent un appart, ils le payent 400 000, un 25 mètres carrés.
Ouais, c'est ça, j'allais dire,
Tu vois, et donc pour eux, ils disent, ah super, j'ai un pied à terre, sauf que nous, un 25 mètres carrés, 400 000. Enfin, c'est... Donc en fait, l'ordre des choses est complètement. Ouais, non, c'est vrai que c'est. Mais c'est des vies. Est-ce que toi, tu te sens plus rêveuse, résultat, d'avoir aussi du temps, peut-être pour écrire, en étant un peu moins dans les transports, l'agressivité
Alors, non. Alors, après, ce qui est sûr, ça m'a pas... Au contraire, j'ai adoré Paris. Ça a été une source d'inspiration énorme. C'est là où j'ai créé mon premier album. J'ai tout écrit. Et je suis partie, je te dis, une fois de plus, par... c'était viscéral. Mais je m'adapte très bien aussi à ces deux mondes. Oui, j'ai gagné en fait, j'étais en, comme je te dis, j'ai tout fait à Paris, vraiment. Et donc les deux dernières années, il y a eu le Covid, etc., on n'arrêtait pas de partir chez des potes, d'être dépendant en fait, du coup, de devoir appeler, est-ce qu'on peut venir chez toi, parce qu'il y avait le Covid, les confinements, les trucs, et on était enfermés à Paris. Et là vraiment je me suis dit j'ai plus envie de ça, et surtout je n'arrivais plus à écrire, en effet. J'étais paralysée et par la ville et par le milieu aussi dans lequel, je sais pas si toi c'est comme ça, mais c'est quand même un tout petit milieu où tout le monde se connaît, et en fait il y avait quelque chose qui m'inspirait plus d'un coup, le côté où dès que tu sors, tu vas boire un café, tu vas à une soirée, tu croises toujours un peu les mêmes personnes et tout le monde t'attend. Tout le monde attend un peu, il faut que tu sois dans la lumière, et dès que tu l'es un peu moins ou que t'es en création, justement tu sens les regards qui sont différents, ça te met une sorte de pression. En tout cas, moi, dans mon cas, j'étais tout le temps en train de me dire, alors attends, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, peut-être que si je veux que ça continue un petit peu à marcher, il faut que... Et là, je me dis, mince, là, je suis en train de faire n'importe quoi, c'est pas du tout bien, c'est pas comme ça que j'ai envie de créer, j'ai envie de retrouver ce pourquoi je fais de la scène depuis que j'ai 12 ans, ce qui m'anime, ce qui me fait rêver, moi, écrire d'abord pour moi et ensuite pour les autres, en fait, c'est-à-dire d'abord d'explorer en soi, dans son intériorité, pour pouvoir donner, mais pas être d'abord qu'est-ce que veulent les autres, et voilà, ça j'y crois pas du tout, en tout cas moi je fonctionne pas comme ça, et donc j'étais vraiment en train de me perdre et de souffrir, et quand je suis arrivée à la campagne, là il y a tout qui est sorti, j'ai arrêté de penser au regard que les gens portaient sur moi, sur le projet, sur ma musique, et je me suis libérée en fait. Et en effet, j'ai écrit un album beaucoup plus intime, beaucoup plus premier degré, ce qui du coup plaît peut-être moins à certains et plus à d'autres. Mais je suis allée là où j'avais envie d'aller. J'ai plus réfléchi à une stratégie, etc. J'ai juste fait ce que j'avais envie de faire et dit ce que j'avais envie de dire surtout.
Ouais, t'as pas vu, c'est Clara Luciani qui avait partagé... je sais pas, un article, elle a fait une story sur Insta parce qu'il comparait deux chanteuses entre elles pendant c'est que machin prépare son prochain album. Clara Luciani a tout arrêté parce qu'elle est enceinte, mais un truc tu sais très...
c'est l'enfer.
Et elle était là, non, je n'ai pas tout arrêté, par contre oui, je suis enceinte, genre est-ce qu'on peut prendre le temps d'être enceinte. Enfin, c'était très dégradant dans la formulation, enfin il y avait un truc...
C'est drôle, là je lisais un article aujourd'hui, je sais pas si t'as vu Libération qui a parlé du concert de Madonna, et donc là il y avait
sur les gens qui l'ont traité de vieille, quoi, en gros.
Et c'est ça, et là t'as une je me souviens plus de son nom, une journaliste qui a écrit là-dessus en disant que vraiment c'était insupportable en fait, de passer le, parce que Libération pareil compare à Beyoncé et Taylor Swift, et en fait il faut arrêter de nous comparer, nous les femmes, il y a quand même ce truc où les chanteurs Iggy Pop, on passe pas notre temps,
c'est vrai,
le mec il est à poil, il a 70 balais, il y a aucun média qui dise oh là là il est à poil, il se prend pour un genou, et qu'il compare
jamais
à des artistes masculins,
jamais
de maintenant,
ah ouais, jamais. Pharrell Williams alors, ben non, jamais,
jamais.
Ouais.
Et en fait je me suis dit mais c'est tellement vrai, et il y a vraiment ce truc, heureusement que dans l'invisible il y a un lien qui nous unit en fait les femmes, et qui est plus fort que tout, parce qu'en fait la vérité c'est ce qui est très beau, ce qui se je trouve, là, dans ces dernières décennies, ce qui se passe chez les artistes femmes, c'est très beau. Il y a une vraie unité. Il y a plein de femmes maintenant indépendantes qui n'ont plus de mentor. Tu vois, il n'y a pas l'ombre derrière d'un compositeur,
c'est
d'un
vrai.
Menteur.
C'est vrai.
D'un menteur, c'est joli.
Ah,
joli lapsus. Non, mais je trouve que ça y est, quoi. En tout cas, en France... il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes femmes, seules, compositrices, autrices, qui n'ont pas l'ombre d'un mentor derrière.
Ouais.
Et c'est très nouveau. Donc c'est la preuve que le sillon il s'est creusé tranquillement mais sûrement et qu'on est au tout début. Parce que après moi je reste toujours assez méfiante, tu vois, sur le fait qu'on a progressé, etc. Je dis ouais, à la fois c'est très ténu.
Oui.
Enfin voilà, sur toutes les causes. En fait tu dis ouais, il faut jamais baisser les bras quoi. Parce que tout est... t'as l'impression d'avoir gagné un endroit et en fait...
Et puis il y a un système en place, qui reste patriarcal, mais c'est vrai que des petites actions et en effet plus de tendresse entre femmes, c'est vrai que ça joue. Toi, est-ce que ta musique ou ton personnage Corinne, t'as senti une évolution entre genre l'avant et l'après-MeToo? Moi je sais que par exemple je croyais que j'étais une meuf super jalouse, tu vois, et je pense que je rentrais juste dans un moule,
ouais.
Et maintenant que là ça fait genre 8 mois que je suis en couple et tout, je vois que je suis vachement moins jalouse.
Bah,
merci.
Ouais.
C'est une victoire, hein. Vraiment je l'ai cherché longtemps, et tu sais j'étais persuadée d'être assez possessive ou quoi, et je pense que c'est le travail de féminisme, de ce qu'on a lu, voilà, tout ce qui nous a breuvé ces 5 dernières années. Je vois plus du tout les femmes comme des menaces, peut-être qu'aussi mon mec enfin que je suis à l'aise dans cette relation ou quoi, mais j'ai même l'impression, tu vois, pour le prochain spectacle, d'avoir envie de retrouver une féminité, d'avoir envie de me sentir belle ou réapprécier mon corps et tout, ce rapport au costume.
Toi, ah, c'est beau.
Est-ce que c'est des endroits que t'as traversés? Est-ce que tu te costumes énormément?
Énormément. Ah non, mais moi, complètement. Alors après, moi, il y a vraiment la transformation, le costume, l'apparat, dans le sens noble du terme, ça fait partie de moi. C'est-à-dire vraiment, depuis l'enfance, sans jamais... c'est mon langage, quoi. Le langage, tu vois, de l'apparat, de me transformer, de prendre... de mettre en scène, ce qui enlève rien à l'authenticité, au fait que c'est moi qui interprète en fait ma propre vie. Mais j'ai toujours été fascinée par le cinéma parce que j'aimais l'idée d'avoir plein de vies dans une vie. Donc j'admire ce métier-là pour ça. Mais évidemment, qu'en tant que femme, en tant que jeune fille, enfant déjà fille, puis après jeune fille, jeune femme, j'ai eu tout un parcours qui m'a menée jusqu'à Corinne, où d'un coup j'incarne la bimbo blonde avec des gros seins, qui monte ses seins, qui s'amuse de ça en fait, qui s'amuse, qui joue avec l'école de la sexualité, de la sensualité, avec une sorte de French touch, dans une prod très niche, où là je voulais aller dans ces prods là justement, qui sont là d'où je viens aussi.
Qu'on adore.
Ouais, ah bah merci beaucoup. Mais en tout cas voilà, c'est là d'où je viens, je voulais ces influences là, mais par contre, ça raconte, oui, mon chemin de femme, évidemment. Évidemment que je ne suis pas arrivée là. Je sais qu'il y a des femmes qui n'ont pas du tout compris et qui ont pris ça au premier degré. Pour moi, c'était évident qu'il y avait du second et du dixième degré, avec donc parce que je pense que l'humour, qu'un sourire est 10 fois plus fort en réponse à la violence que la violence elle-même. Moi, c'est vraiment une arme pour moi, et ça depuis longtemps, depuis toute petite aussi. J'ai toujours été le clown dans ma famille et tout, face aux épreuves, face à l'adversité. J'ai toujours eu cette chance, je vais dire, parce que c'est ma nature et c'est une chance, parce que j'ai réussi à traverser les épreuves avec en transcendant, avec résilience en fait, et donc avec humour aussi. Et donc cette adversité face à la féminité, parce qu'en fait, quand on est fille, je trouve que quand même, dès toute petite, on nous conditionne beaucoup à être mignonne, à nous taire. Moi, mes
petite.
Repas de famille, c'était quand même... J'avais deux grands frères, un père très intello, extraordinaire, que j'aime énormément, mais qui quand même, quand mon père parle, mes frères parlent...
Il faut trouver sa place,
tu vois. Donc, c'est pas pour rien que ce personnage, il est né, il prend beaucoup de place, il est très lumineux.
Ouais.
Et j'avais envie de raconter la femme que j'étais à ce moment-là. Corinne, c'est né de ce moment où je tombe folle amoureuse d'un homme. C'est aussi grâce à l'homme de ma vie que j'ai réussi à assumer cette sensualité, mes formes, en disant maintenant stop en fait. Ouais, j'ai envie de travailler sur le glamour.
Ouais.
Et le glamour dans le sens premier du terme. Je lisais là le livre de Christian Louboutin qui est sorti pour son exposition. Et j'ai appris l'étymologie du mot glamour, qui est en fait... L'étymologie, c'est un mot qui date du XIIe siècle, qui est écossais et qui raconte l'art de l'illusion. Mmh. Donc c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, l'art de l'illusion, de la sorcellerie.
Waouh!
Ah ouais. Et en fait, le mot glamour, il raconte, Christian Louboutin, qu'il a été dévoyé. En effet, aujourd'hui, le glamour, c'est le papier glacé, quoi. Mmh. Mais en fait, il dit, pour lui, la plus grande représentante du glamour, c'est Marlène Dietrich, ouais, qui était la reine de l'illusion, qui était capable de fabriquer une robe en sequin dans sa cuisine, toute seule, avec 2 francs 6 sous, et d'être sublime. Mmh. À la fin de sa vie, elle se sentait tellement maigre qu'elle avait fabriqué un faux corps à l'intérieur de sa robe, wow, en mousse. Et donc les formes qu'on voit d'elle et tout,
c'est des fausses.
Mais en fait, c'est elle quand même. Enfin, la reine de l'illusion et du glamour. Puisque c'était la femme la plus adulée par tous les incroyable hommes, par toutes les femmes et tout. Donc c'est ultra intéressant. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand je suis partie dans l'imagerie de mon personnage, et quand je dis personnage, je l'assume totalement, parce que pareil, pour moi, ça n'enlève aucune authenticité. Mais oui, il y a une forme de jeu. C'était ça que j'avais envie de revendiquer, c'était le glamour dans le sens premier du terme, dans le sens théâtral, dans le sens spectaculaire. Et j'ai pas du tout envie de me montrer au pied du lit.
Ouais.
Tu vois, Juliette Gréco, elle disait ça aussi, j'adore, elle disait toujours « Je n'ai jamais dormi avec aucun homme dans ma vie. Enfin, je me suis jamais réveillée, j'avais pas envie qu'il me voie le matin au réveil. » Elle, ce qui l'intéressait, c'était de les faire rêver, c'était qu'ils voient Juliette Gréco, pas qu'ils voient la Juliette qui se réveille le matin. Mmh. J'aime bien cette idée-là.
Et donc tu dis que c'est une histoire d'amour, en fait, que c'est la rencontre amoureuse avec ton chéri, ouais, qui a... C'est vrai. Mmh. Ça, c'est beau, parce que c'est... Moi, je vois bien qu'en effet, il y a plein de blagues qui arrivent, là, avec l'expérience du couple, de l'amour, mais je suis curieuse au niveau de la chanson, de ce que ça produit, comme avant et après, toi, dans tes textes ou dans ton corps, dans ta voix?
En fait, ça rejoint là le chemin, moi en tant que femme, donc je te dis, j'étais très conditionnée, comme ce que tu as dit avant, où je répondais à un schéma sociétal où on m'avait fait croire qu'en effet, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas rigoler trop fort, parce que sinon tu parais un peu bête, il ne faut pas trop monter ses formes, sinon tu te fais quand même emmerder toute la journée par des mecs dans la rue, c'est une réalité. En tout cas, moi à Marseille, je suis arrivée à 19 ans à Marseille, c'était fou.
Ah ouais.
Je me faisais insulter, enfin, voilà, c'était dingo. En quatrième, où j'ai changé de collège parce que j'étais dans une ZEP vraiment dure, c'est-à-dire que j'ai tenu 2 ans, puis au bout d'un moment, mes parents ont dit, bon, quand il y a eu un mec de 16 ans qui m'a mis un dos au cul, ils ont dit, on va te changer de collège quand même. J'ai dit, ouais, ce serait pas mal. Et je me suis retrouvée dans un collège privé parce qu'il n'y avait plus de place en public. Et là, ça a été assez violent aussi dans l'autre sens, l'air de rien, parce que moi, je suis vraiment arrivée avec mes pattes d'eff et mes chemises en soie peintes par ma mère.
Ah, waouh!
Un peu, tu vois.
Ouais.
Et où je. Voilà, c'est vraiment, j'ai eu un accueil très chaleureux de la bourgeoisie aixoise. C'était merveilleux.
Oula! Ah oui, la bourgeoisie aixoise, je vois très bien, j'ai un peu joué dans cette région. C'est quelque chose, ouais.
Mais j'ai aussi rencontré des amis avec. Je suis restée amie avec certaines personnes. Hein.
Ah oui.
J'ai pas dit que c'était que de la souffrance.
Mais... Non, il y a des gens super.
Donc tout ce chemin, etc., j'ai été dans des relations assez toxiques, en fait.
Okay.
Où je reproduisais des schémas en pensant que l'amour, c'était vraiment la souffrance et qu'il fallait tenir bon et que. Ouais, c'est ça, en fait, aimer, tu vois. Et puis, il y a eu une séparation qui m'a libérée. Et là, vraiment, coup de foudre total sur le dance floor, 1 mois après ma séparation. Avec l'homme de ma vie, sur le dance floor, où c'est vraiment le langage des corps. On danse pendant 4 heures.
Waouh!
Et là, il y a un truc fou qui se passe. Et commence l'histoire complètement incroyable. Et moi, j'avais un projet de rock indé qui s'appelait Dawn.
Oui.
Et je faisais vraiment.
Angèle, en écossais.
Ah, mais non, mais je ne savais point ça.
Ah ouais, oui, oui,
ah,
Dawn, c'est une traduction de Angèle, donc c'est sur Wikipédia, il n'y avait pas tout, je crois.
Ah ouais.
Donc, si tu tapes Corinne, chanteuse, sur Wikipédia, Dawn, et c'est la traduction de Angèle, alors peut-être pas en écossais, mais ça veut dire Angèle dans une langue, enfin je te revérifierai ça, je mettrai en outro de l'épisode.
Ah, ça m'intéresse. Ah, ok.
Mais tu vois pourquoi.
Ok, mais tout à fait. Non, et donc j'avais ce projet de rock indé très sombre, inspiré par Cat Power, PJ Harvey, Elysian Field, tu vois. Et à la fois, ça faisait partie de moi aussi. J'ai une vraie mélancolie par moment. Et j'avais besoin de passer par là, tu vois, par un moyen d'expression mélancolique, sombre, deep. Et quand je rencontre l'homme de ma vie, il me voit en concert, il me dit c'est super. Puis au bout de 6 mois, 7 mois, on commence un peu à se connaître. Il me dit c'est génial, j'aime beaucoup ta voix et tout, mais vraiment, t'es tellement lumineuse dans la vie, t'es tellement drôle, t'as pas envie d'offrir ça aux gens en fait.
Incroyable.
Vas-y quoi, n'aie pas peur de ça. Et c'était la première fois que j'étais avec quelqu'un
qui te regardait,
qui me regardait réellement, qui me parlait de moi, qui avait vraiment, qui me rencontrait vraiment, mais surtout un homme qui osait, qui avait pas peur que j'aille vers ça aussi.
Ouais,
parce que
avant,
j'étais plutôt avec des hommes qui avaient pris toute ma lumière, qui étaient attirés par ça au départ, mais une fois qu'ils l'avaient prise, ils voulaient.
Les triquer.
Tu vois, c'est ça. Et là. Incroyable. Et en fait, je commence, moi, je suis en même temps en train de travailler dans un label chargé de projets, bah, toujours pour gagner ma vie, en même temps de travailler dans la restauration, de faire 300 boulots, tout en commençant à tourner avec Marc Collin. Rencontre importante aussi hein, de ma vie, parce que Marc Collin, qui est un des derniers producteurs, quand même, qui continue à se déplacer dans des toutes petites salles pour aller voir des groupes inconnus, enfin, tu vois, un truc qui n'existe plus trop, quand même. Et lui, il vient me voir au Bus Palladium. Elena Noguera lui avait parlé de moi.
Ok.
Je sais plus comment elle avait eu mon album, enfin, sorte de...
Tu vois. Incroyable.
Et il vient me voir et il me dit, ok, je monte un nouveau projet avec Nouvelle Vague, la suite de Nouvelle Vague, Bristol. Il y avait Clara, d'ailleurs, dedans.
Ok, waouh.
J'aimerais que tu fasses partie du truc, viens faire un essai au studio. Et puis commence l'aventure, parce qu'en fait je pars en tournée avec lui, et puis moi là c'est la première fois que j'ai des cachets, je pars en tournée, tu vois. Et pendant la tournée, et moi entre temps j'ai cette histoire d'amour dingue, enfin tu vois tout est très, t'as une sorte d'alignement, et les choses tu vois commencent à fleurir quoi, j'ai envie de dire. C'est fertile, c'est une période très fertile, tu vois. Et là pendant la tournée il me fait écouter des sons, dont l'instru de Pourquoi.
Ouais.
Et je lui dis, oh là là, mais j'adore, je rêve d'écrire sur une musique comme ça, de faire un projet complètement punk, drôle, à la Vive la Fête. Tu vois, ma référence, c'est Vive la Fête en Belgique. Je suis fan, totalement fan de ce groupe. Et il me dit, ah bon, mais c'est pas du tout ton style, tu fais du rock indé et tout. Je dis, ouais, mais vraiment, laisse-moi essayer. Ouais, c'est ça. Je dis, laisse-moi essayer, s'il te plaît, et tout. Ok. Et puis en fait, je rentre en studio. Puis après, ça a commencé. Et c'est là où... mon homme a été important aussi, parce qu'en fait il a suivi tout le processus, et après c'est lui qui a fait tous mes clips.
Il a réalisé tous tes clips,
tout le début, tous les clips, tu vois. Donc pourquoi on va loin dans l'imagerie, la sexualisation du
totalement.
Personnage et tout ça, où évidemment il y a 300 milliards de degrés d'humour dedans, mais qui est pas forcément, tu vois, tout le monde peut pas forcément comprendre. Mais la première fois où j'ai vu le clip, je fais waouh, ah ouais, quand même on va loin,
c'est baroque.
Et à la fois, ce qui était sublime, c'est que comme j'étais avec lui, que c'était son regard à lui, bah, je savais que tout était...
En confiance.
Ouais, ça avait du sens, en fait. Et après, moi, c'est ce que j'avais aussi envie de raconter. J'avais envie de provoquer à ce moment-là. Justement, sur là où on enferme la femme, là où on enferme les femmes blondes qui ont des formes et tout ça aussi. Parce que moi, venant du Sud, j'ai quand même beaucoup subi ce truc-là et entendu. Je suis pas du tout blonde dans la vie, mais en fait, t'as quand même ce truc très macho dans le Sud. Que tu subis quoi, c'est vraiment le terme.
C'est clair.
Quand t'es une fille et quand après t'es une jeune ado et tout, c'est complètement fou quoi. Et donc ouais, c'est un gros pied de nez à tout ça. Je suis en plein pouvoir, en pleine possession de mes pouvoirs de séduction, et c'est moi qui décide. J'ai envie de te séduire et je maîtrise le truc. Après qu'il y en ait qui m'insultent et tout ça, c'est pas grave, parce que ça fait partie, une fois de plus, à partir du moment où tu t'exposes. Ça fait partie du jeu. Et malheureusement, la nature humaine, elle est ainsi faite. Qu'il y a des gens très violents, il y a des gens en colère, il y a des gens...
C'est aussi parce que ça buzz.
C'est les médias, en fait. Moi, j'étais vraiment, je te dis, à galérer depuis 10 ans, à manger des pâtes. Enfin, tu vois, à être vraiment quand même bien dans le côté saltimbanque. Et je le suis toujours. Voilà, mais le côté vraiment galère, quoi. J'ai eu 2-3 moments très compliqués. Et là, en effet, quand pourquoi on le sort, on a fait le clip, donc j'avais quand même le label de Marc Collin qui m'accompagnait, c'est grâce à ça qu'on a fait le clip et ça, mais on a fait le clip avec 2 000 euros, enfin, tu vois. Donc, on commence, l'aventure commence, le clip sort, et là, je me retrouve direct, en effet, avec Antoine Decaune, qui m'invite sur son émission. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai eu un média, il y a eu tous les médias qui ont commencé... Je pense que tu connais un peu.
Oui, ben
tout
ouais.
Ce monde-là, en fait, tout le monde qui commence à s'emballer, et après, en fait, les gens de la musique ont suivi. Tu vois. Et YouTube, oui, ça a bien marché et tout, mais après, c'est pas non plus un énorme. Ça reste quand même très niche, mon projet. Tu vois, ça reste.
Ouais.
bah c'est pas énorme non plus si tu compares, ouais, entre guillemets, tu vois, ça reste un projet niche. Ça a été très identifié à un moment parce qu'en effet j'ai été récupérée par toute la presse, par tous les médias. Donc tu vois, j'ai fait Quotidien plusieurs fois, C'est à vous, le L, tous les magazines et tout. Donc en fait il y a eu une sorte de, on parlait beaucoup de moi, et moi je me suis beaucoup amusée parce que je viens de là d'où je viens, que tout ça. Alors c'était compliqué au début parce que quand Antoine Decaune m'invite, moi j'ai pas du tout encore créé le live, donc on crée le live pour l'interview, mais surtout j'ai pas encore vécu le personnage sur scène. Okay. Là, j'ai été que en studio.
Ouais.
Et donc je suis là, et évidemment lui, la grande question qui a été récurrente après, c'est les cheveux, tout le temps.
Ah ouais.
C'était un vrai sujet et qui m'a pas mal déstabilisée aussi au bout d'un moment, parce que je me dis mais attends, c'est quand même fou parce que on est fan d'artistes américaines,
ouais, avec des grands cheveux,
qui se transforment toute la journée. Enfin tu vois, qu'ils sont jamais sans, pour, tu vois, Cher.
Ouais.
Aujourd'hui Lady Gaga. Enfin tu vois, il y a plein d'artistes blanches aux États-Unis ou en Angleterre qui passent leur temps
Amy
à se transformer.
Winehouse, elle avait des grands cheveux.
Tout le temps. Et où on leur pose pas la question, quoi. Et moi, j'étais là, bon. Alors,
c'est vrai qu'en France. Ouais.
Alors, en France, il n'y a pas cette culture.
Ouais, c'est
ça
fou.
Commence à revenir un petit peu, mais pas trop. Et puis, moi, il y avait le côté personnage très jusqu'au boutiste. Donc, je pense que les médias se sont dit, bon, c'est une blague. Il y avait un peu ce truc-là aussi, tu vois. De, ils disaient, bon, est-ce que c'est un produit purement marketing ou est-ce que, tu vois. Donc, c'était intéressant. Et à la fois, moi, tout le départ, je me suis dit, ok, je vais vraiment jouer la part de mystère. Tu vois, le truc assez drôle de dire, mais non, mais c'est mes cheveux. Mais je comprends pas, et je trouvais ça très drôle de jouer aussi l'ingénue sur les, tu vois, sur les plateaux, de faire la fille qui comprend pas. Donc ça, je me suis beaucoup amusée, et j'ai pris en fait. C'est un cadeau quand d'un coup juste de gagner ma vie avec la musique,
ouais,
d'avoir, c'était un grand cadeau, et j'ai pris parce que je savais aussi, j'ai vraiment passé 6 ans de pur bonheur. Tu vois, d'un coup, bah, ça a été fou. J'ai signé avec Polydor, c'était un rêve aussi pour moi. Je m'en souviendrai toute ma vie. On a fait une soirée pour la signature avec le patron de l'époque de Polydor à la closerie des Lilas. On a fini en chantant au piano jusqu'à la fermeture. Enfin,
Polydor, vraiment... c'est un label ?
C'est un label de musique, ouais, pardon. Label de musique grosse major qui appartient à Universal.
Ok.
Et après 2 ans, on était vraiment en indé. Avec Marc Collin,
okay,
dans son label qui s'appelle Quaidan, on a signé chez Polydor. Et donc c'était vraiment pour moi
le Graal.
Ouais, une sorte de reconnaissance.
Ok.
Ça, c'est de reconnaissance du métier. Ok, ce que je fais, c'est reconnu par des gens qui sont là depuis très longtemps. Donc il y a eu cette, voilà, c'était en tout cas des grands moments de bonheur que je garde en moi et qui sont importants dans ma construction aussi, dans ma vie. Et à la fois, j'étais toujours très consciente que c'était un peu du vent. Enfin, tu vois que tout ça, et ça on le sait quand on commence ces métiers-là, on sait qu'il n'y a rien qui est linéaire, et c'est ça qui nous excite aussi d'ailleurs. Enfin,
c'est l'éphémérité perpétuelle, quoi.
Exactement. Et là on en revient en plus à notre époque où t'es dans une culture de...
De plus en plus éphémère.
Non mais ouais, où tu passes ta vie à scroller. Tu scrolles ta vie, donc en fait c'est, les gens ils scrollent, enfin, ça devient fou. Tu vois, il y a quelque chose qui est vraiment dingue. Donc j'ai pris, j'ai kiffé, je me suis, tu vois, remplie en fait de tout cet amour, même quand il était vraiment superficiel et que je le savais, mais parce que ça fait partie, c'est très politique en fait à un moment donné, et c'est drôle, et tu étais là, et t'as l'impression d'être en campagne un peu politique,
ouais.
Et à la fois je pense que ma force c'est en effet d'avoir l'âge que j'ai 40 ans, tu vois, j'ai commencé quand j'ai gagné ma vie pour la première fois, quand j'ai eu mon intermittence, j'avais 33 ans, donc c'était vraiment beaucoup d'années de galère, et à la fois du coup une maturité est assez prête à pouvoir vivre tout ça en pleine conscience, et en ayant conscience que bah ouais, c'était magnifique, et puis qu'il allait y avoir des moments plus compliqués, enfin tu vois, et que ça fait partie en fait du métier, et de l'assumer pleinement parce que c'est le choix que j'ai fait dans ma vie. Alors c'est un choix pas totalement, comment dire, c'est la vie, c'est que je peux pas faire autre chose,
ouais,
tu vois, c'est viscéral pour moi, c'est, je peux pas faire autre chose que d'être sur scène, que d'écrire des textes, que de faire de la musique ou du théâtre, parce que j'en ai fait beaucoup au départ, c'était plus ça,
ok,
tu vois, mon début de carrière.
Et alors l'histoire de Pluie fine, alors avec Polo & Pan, il est incroyable ce morceau.
Ah merci.
Fan.
Mais ça c'est trop joli parce que c'est vraiment Dorian, le producteur qui était avec Marc Collin et moi, qui a fait le premier album, Dorian Fizel que je salue, qui est un ami très très proche, un frère, et qui, en fait, lui, il connaissait bien Alex Pan. Et moi, c'était le début, mais ça commençait un peu à parler, tout ça. Donc, c'était rigolo parce que d'un coup, j'appartenais à une sorte de hype où vraiment, 2 ans avant, tous ces gens-là, ils me disaient même pas bonjour dans des cafés, tu vois. Donc, c'est très drôle. Je parle pas de Polo N. Pan, hein, attention. Mais je parle d'une sorte de hyperie parisienne.
Ah merde, il faut dire Polo N. Pan.
Moi, j'adore dire Polo N. Pan, mais je sais pas, écoute. Et en fait, du coup, ils sont trop mignons. Dorian leur a dit, ouais, Coco, ce serait trop bien que vous fassiez un remix. Et ils sont venus en studio. Et okay. on leur a fait écouter plusieurs morceaux et ils ont choisi celui-ci. C'est eux qui ont choisi le titre sur lequel ils allaient faire le remix. Et ça a été un grand cadeau aussi, parce que ça m'a permis, grâce à eux, j'ai rencontré un public. Encore aujourd'hui, tu vois, il y a plein de gens qui me découvrent via leur remix. Donc c'est... ouais, c'est beau, ça c'est des moments comme ça, un peu de grâce qu'on a dans nos métiers, des rencontres. Et c'est vrai que c'est un métier, tu vois, l'écriture, l'adversité, parce qu'il y en a, t'as des grands moments de solitude, mais par contre c'est vraiment un métier que tu peux pas faire seul.
Ouais.
Et il faut trouver une famille, une team solide. Et donc, en tout cas, sur le premier album, ça a été ça. Puis sur le deuxième, ça a été beaucoup plus laborieux, beaucoup plus compliqué. Et c'est là où je me suis rendu compte d'autant plus de l'importance de l'équipe, en fait, qui t'accompagne. Parce que toi, t'es le moteur, tu crées la dynamique. Mais si derrière, t'as pas une équipe solide, c'est très compliqué quand même.
Ouais, faut que ça suive.
Ouais.
Et que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et Pino Danjo, c'est toi qui as l'idée ?
Et Pino Danjo, non, c'est mon... En fait, Sly, donc le deuxième album, je l'ai fait avec Abibi Sly et Julien Gallner. Sly m'envoie cette prod, donc l'instru. Et il me dit, oh là là, ce serait trop bien que tu demandes à Pino Danjo, quoi. Ce serait fou. On était en plein Covid, en okay. plein confinement.
Ouais.
Et là, je dis, bah ouais, ce serait fou, mais oui. bon, tu vois. Et puis dans la nuit, j'y réfléchis. Je regarde son Instagram, je me dis, est-ce qu'il a un Insta ? Et là, je vois son Insta, il a 2000 followers. Tout petit. Alors, je me dis, bon, ça doit pas être le sien. Enfin, ouais. tu vois. Et puis, bon, il est quand même âgé et tout, quoi. Mais j'écris. Une heure après, il me répond. Il me dit, ah oui, ouais. Enfin, il me répond par écrit. Il me dit, ouais, j'aimerais beaucoup que... Voilà, ok. Puis, je me dis, bon, bah, je chambais, génial. Je lui envoie la prod. Et là, pendant un an, on s'est écrit, on s'est envoyé les textes, c'était extrêmement drôle, on s'est laissé beaucoup de vocaux, je les ai gardés. Et lui, il parle comme ça, oui, Corinne. J'aimerais beaucoup, en fait, que dans la chanson, on fasse l'amour à la fin.
Waouh!
Ouais, ça, c'était tout au début. Sa seule fixation, c'était ok, je veux bien faire un duo, mais je pense que c'est bien si on fait l'amour à un moment donné. Et je disais, non, Pino, justement, ce qui va être hyper joli, hyper drôle, c'est que moi, de façon totalement ingénue, je t'ai conduise, vois-tu. Ouais, d'accord. Et puis il a fini par accepter, puis finalement, la dernière version qu'il m'envoie, il fait des sortes de râles qu'on a gardées à la fin. Alors il fait comme ça. On trouvait ça ultra drôle. Et il me laisse un vocal, il me dit, ouais, Corinne, ouais, tu vois, à la fin, je fais des sortes de gémissements. Je pense, c'est bien si toi, tu fais un peu les parce que quand même, que peut-être, les gens, ils vont croire que... Et là, énorme. On sort le titre marche bien. Et en fait, là, je me dis, j'ai trop envie de faire un clip, quoi, avec lui. Mais voilà, il est en Italie, il est hyper âgé, je le contacte, je lui dis, est-ce que t'as envie de faire un clip ? Il me dit, ah oui, bien sûr, et tout. Et là, j'ai vraiment 3 francs 6 sous, parce que j'ai monté mon label aussi, voilà, au milieu de tout ça. J'ai eu un bébé, j'ai monté un label, enfin, tu vois, il y a souvent une sorte de concordance, en fait. J'ai déménagé, tu vois, des trucs, où, mais donc beaucoup de mouvements, mais à la fois beaucoup de responsabilités, et monter un label, c'est assez vertigineux, c'est beaucoup de responsabilités en termes de prod, en termes financiers, et donc là, tout à cela, en effet, j'étais vraiment avec pas une énorme prod. J'ai appelé, on est ici à l'hôtel Grand Amour pendant qu'on se parle, et eux ont été en gros les producteurs un peu du clip, parce qu'ils nous ont accueillis à Nice, hôtel Amour Nice, pendant 3 jours, où ils ont été merveilleux, quoi. Ils nous ont accueillis, vraiment, ils nous ont permis de faire ce clip aussi.
Trop cool.
Et je salue le réalisateur aussi, Victor Anotel, et sa femme Déborah, parce qu'ils ont été merveilleux, et pareil, ils ont travaillé pour pas grand chose. Mais ça a été une aventure incroyable. On s'est retrouvés, donc Pino est venu avec sa femme, on s'est rencontrés pour la première fois, parce qu'on se connaissait pas en vrai, et on a tourné ce clip à Nice, et c'était très émouvant, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un mythe vivant de l'Italo Disco. Voilà, quoi, le son de basse qu'il a créé sur ses morceaux, il est, tu le mets n'importe où, dans n'importe quel endroit du monde entier, tout le monde danse, tout le monde connaît. Oui. Personne ne connaît Pino Danjo, tu dis le nom, ils disent
Oui, c'est vrai.
Mais tu mets
une musique de Pino Danjo et
tu mets
gens.
Le début, ouais, ouais. N'importe quel de ses titres, en fait, les gens le connaissent.
Bien sûr.
Donc là, de le rencontrer en vrai, j'étais méga impressionnée. Puis bon, c'est un Italien personnage, quoi.
Ouais.
Hyper. T'es là, il impose un truc, il fume clope sur clope, alors qu'il est à son 7e cancer. Moi, il est arrivé, il sortait de chimio. Donc c'était assez délicat aussi, parce qu'on a dû prendre soin de pas trop le fatiguer. Il fallait qu'on s'arrête toutes les 2 heures. Enfin, c'était. On marchait sur des œufs, quoi.
Ouais.
Mais aventure incroyable, franchement, ouais. Mais on est resté en lien, on s'écrit souvent, enfin voilà,
c'est génial.
Ouais, c'est des très très belles rencontres.
Est-ce que tes rêves ont évolué au fur et à mesure?
Ouais, forcément.
Parce que les gens ils disent Paul Naref, mais c'est parce que les cheveux.
C'est les cheveux.
Oui, oui.
Ouais, c'est vachement les cheveux. Non, mais ouais. Ça, moi j'ai été très enfermée. C'est là-dessus que sur le deuxième album, je me suis dit comment je fais, est-ce que. Je fais comme Cher, c'est-à-dire en fait avoir des cheveux différents tout le temps. Tu vois, Cher, elle avait imposé ce truc-là, elle avait toujours des coupes spectaculaires, totalement différentes. Mais je pense que je vais y venir à ça, okay. Tu vois, de pouvoir me transformer tout le temps, d'arrêter d'être que dans la choule ronde. Mm-hmm. Mais après, il est vrai que là, sur le deuxième, je me suis j'ai un tout petit public, j'aimerais bien quand même qu'ils aient, tu vois, un petit point d'accroche.
Ouais.
Donc si je me transforme totalement, mais bon, peut-être que là, pour le coup, je pense que j'ai trop réfléchi. Donc c'est intéressant. Je pense que j'ai trop réfléchi et que c'est ce pourquoi ça a peut-être été plus compliqué, tu vois, de raconter l'histoire de ce deuxième album. Parce qu'au final, ce deuxième album, il est plus proche de mes amours premières, de la chanson, du cabaret. Il y a des chansons très Corinne, entre guillemets, mais du premier album, tu vois, tout à cela, chez Jo, donc plein d'humour, plein de second degré, mais il y a aussi en effet des chansons, quoi. Mais mes rêves musicales, en effet, non, Paul Naref, ça c'est vraiment les médias qui m'ont enfermé là-dedans.
Ouais.
Et ça a été assez, je te dis, à la fin, j'étais un peu épuisée de ça, qu'on me parle tout le temps que de mon look et de mes cheveux et pas du tout de ma musique. Mais à la fois, c'est ce que je te disais, je recevais ça avec beaucoup de.
Oui, de...
d'humour aussi et d'humilité. En fait, tu sais, ça appartient à nos métiers, il y a de l'image.
Bien sûr.
Voilà, faut... c'est comme ça.
Il faut casser ça à un moment ou pas, ou en jouer.
Ouais,
c'est marrant
ça.
Dans le documentaire d'Orelsan, à un moment, quand il travaille avec ce réal et qu'il décide de se mettre au. Il décide pas de se mettre au sport ou de se couper les cheveux ou de revoir totalement son apparence et de casser son image complètement. Moi, je sais que je l'ai un peu fait au début de l'année parce qu'en fait, j'avais fait une émission qui s'appelait L'un dans l'autre où j'invitais des gens qui étaient venus dans mon podcast et on regardait des films porno. Et c'était pour YouTube. Et en fait, le spectateur ne voit jamais les films porno dont on parle. Il a juste l'audio de dialogue complètement improbable, des gémissements évidemment totalement exagérés. Et comme des animateurs de foot, on écrivait ce qu'on voyait. Et alors ça a eu énormément d'écho. Mais ensuite, à chaque interview ou quoi, à chaque description, headline d'article, c'était Rosa, le cul.
Ouais.
Et donc là, maintenant, je fais gaffe à faire pas mal de blagues d'actu plutôt que des blagues de cul pour un tout petit peu...
Décentrer, pour changer un peu.
Élargir. Et parce que dans mon spectacle, je ne parle pas que de ça. Et ça en fait partie,
bien sûr.
Mais il y a un moment, c'est vrai, qu'en tant qu'artiste, t'es tout le temps aussi obligé de te dire, tiens, il faut être reconnaissant à ce qui t'a fait connaître, parce qu'aussi, il y a aussi plein de gens qui se sont abonnés à moi pour ça, pour cette parole libérée là-dessus. Et en même temps, un moment, sans être infidèle à eux, faut dire, écoutez, je vais quand même rebasculer vers ça. Là, t'es en écriture d'un troisième album ?
Là, je suis en réflexion. Je suis encore en tournée. Donc, tu vois, là, je prépare la cigale, j'ai encore des dates. Donc, je profite aussi, comme je te dis. Hein, moi, je suis vachement dans... Donc, là, je profite de ce qui se passe là. Et à la fois, je fais aussi une petite pause. J'ai eu, ce deuxième album, il a été laborieux. Il y a eu des vraies épreuves humainement, de choses qu'il a fallu que je digère aussi. Et donc,
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Là, je me dis, j'ai envie de respirer un peu. On m'a proposé de travailler sur un projet d'écriture, participer à un projet qui s'appelle... Il y a déjà une première édition qui est sortie, qui s'appelle Hold Up 21, avec 20 femmes d'univers totalement différents et de métiers différents qui écrivent des nouvelles érotiques sur la jouissance. Et elles se retrouvent. En gros, c'est les éditions Carrière, Stéphane Carrière, qui a monté ce projet de nouvelles. Et en faisant le constat que les femmes se retrouvaient en un point, c'était celui-ci, celui de la jouissance. Et donc là je suis en train de d'écrire pour ça, tu vois, de participer à ça, d'essayer d'ouvrir un peu vers j'écris pour d'autres projets aussi, donc c'est intéressant. Et oui j'ai plein de chansons déjà dans le tiroir, je commence à réfléchir à la suite, etc. Mais j'ai envie de prendre le temps parce que
de faire les bons choix avec les bonnes personnes, c'est ça qui peut être difficile aussi, c'est comment trouver les bons collaborateurs.
Oui, c'est ça,
pas être déçu.
Et puis faut que je me ressource, parce qu'en fait c'est toujours pareil. Et ça, je le dis pas, il y a aucune plainte, parce qu'une fois de plus, c'est un choix de vie. Et donc, je suis la seule maître de ma vie. Donc, les responsables ne sont pas les autres, mais il y a ce besoin à un moment donné de se réénergiser. Il faut que je retrouve de quoi nourrir le moteur, quoi. Tu vois,
parce que produire pour produire, ça peut être complètement destructeur.
Ouais, exactement. C'est ça.
Mais d'ailleurs, je me demande si c'est pas Juliette Armanet qui en avait parlé en interview. Elle disait que, je sais plus, son dernier album ou quoi, qu'à un moment, il y avait une espèce de pression, de « faut que tu sortes des nouveaux sons, faut que tu sois... »
Ouais, c'est hyper violent. On en revient au rapport... On a commencé avec ça.
Ouais.
Le rapport au temps. Et c'est vrai que moi, je suis un être lent. Et donc, c'est hyper confrontant dans le monde dans lequel on vit. Parce qu'en effet, on nous demande d'être tout le temps présent. Qu'il y a une jeune génération extraordinaire avec beaucoup de talent qui le fait très très bien. Parce que c'est des générations qui sont nées avec des téléphones dans la main, avec tous ces outils. Donc pour eux, c'est inné en fait, presque. Tu vois, il y a quelque chose, c'est naturel. Moi, je suis pas de cette génération-là. Donc, c'est un apprentissage, quoi. Je suis un peu la vieille mamie, tu vois, quand il y a eu les ordinateurs qui sont arrivés, quoi. Tu vois ? Non, mais... Donc là, les réseaux sociaux et tout, c'est ça. Donc le rapport au temps que j'ai, c'est pas le même. Après, je crois que c'est un truc de nature, parce que j'ai rencontré 2-3 jeunes qui sont aussi dans leur nature très, très tranquilles et tout ça. Mais qui, quand même, manient très, très bien les réseaux sociaux. Et pour eux, c'est pas une charge. Et parce qu'en fait, ils savent comment ça fonctionne. C'est instinctif, ça va vite. Donc c'est intéressant. Donc après, faut assumer. Moi, j'assume le fait que c'est pas ma génération, c'est pas mon truc aussi, c'est pas ma nature de passer mon temps à en tout cas, j'ai pas envie de raconter ma vie, j'ai pas envie de, tu vois. Donc
tu mets pas du tout en scène ta famille. Ton fils jamais. Non. Même ton amoureux, vous restez discret.
Ouais. Jamais. Et en plus, moi, quand le premier EP est sorti, c'était en 2016. L'album est sorti en fin 2018. Après 2019, j'ai tourné et il y a eu le Covid. Tu vois, j'ai filmé à tourner 2020. Et c'est hyper intéressant. Mais 2016, Instagram commençait, quoi. Enfin, tu sais, c'était les tout débuts. T'avais pas du tout le point of view. T'avais pas du tout tous ces trucs-là. T'avais juste... Tu mettais une photo et tu faisais ta promo.
Ouais.
C'était ça, en fait, l'outil, quand même.
Ouais.
Tu vois ? Donc... Là, maintenant, l'outil, c'est quand même de, en effet, tout le temps de raconter ta life, d'être le plus naturel possible, de plus mettre de fil, de plus machin. Tu vois ?
Ouais.
Tu fais génial, mais c'est un outil qui est puissant, c'est un outil qui est intéressant, c'est un outil qui est nécessaire. Enfin, maintenant, tu vois, je pense qu'on peut pas faire sans.
Comment jouer le jeu en restant soi ?
Ouais, c'est ça.
C'est tout
sans transgresser, sans. Moi, je sais que j'ai pas envie de bouleverser mon intimité, j'ai pas envie. Voilà. Du coup, faut juste assumer, c'est toujours pareil, faut être aligné, quoi.
Oui, parce qu'en plus, trop révéler de son intimité peut nuire aussi aux rêves que se font les gens, aux fantasmes.
Ouais,
Corinne, on sait pas d'ailleurs, même dans les chansons, dans toute ta sola, tout est possible, mais il faut laisser l'espace tout en faisant en sorte que les gens s'attachent d'une certaine manière. Là, tu vois, moi, j'ai beaucoup partagé en fait en story des photos sur lesquelles j'écrivais des textes en mode super masse machin, et là je sais qu'en fait, pour relancer un peu la promo et pour annoncer une grande date, la fin de ce spectacle, je vais aussi faire une cigale le 26 janvier.
Génial. Tu vas venir?
Je t'invite, mais le délai est court entre le moment là où je vais l'annoncer, où ça va être en vente, et pour que ce soit impactant, il faut que je fasse une story face cam où je parle. Et en fait, ça, c'est un truc que je faisais à un moment, mais que je fais plus depuis longtemps et que je délai, et là c'est demain, donc là il faut que je la fasse genre là, maintenant, ce soir. Et tu te dis comment est-ce que c'est ça, et en même temps il faut pas non plus à tout prix copier juste être soi.
Et donc du coup, quand on le sent pas, faut pas le faire, parce que du coup c'est pour ça que moi j'en ai pas fait, tu vois, parce qu'en fait Laisse tomber, j'essaye de faire des trucs, je suis pas du tout naturelle, c'est pas mon truc en fait. Donc je pense qu'il faut pas chercher à être quelqu'un d'autre ou chercher à plaire à tout prix ou chercher. Je crois que. Enfin, moi je crois en la puissance des chansons. Depuis le départ, ça m'a perturbée, mais quand j'avais mon projet d'avant aussi. Le fait de devoir tout raconter tout le temps, de tout analyser au-delà de la chanson. Et tu te dis, mais moi, quand je vais voir un concert de musique flamenco ou de La Chica qui chante en espagnol ou d'une chanteuse française, où là, je comprends, mais je peux être extrêmement émue par des chants qui viennent d'ailleurs où je comprends pas le texte. Ce qui va me traverser, pourquoi j'adore la musique, c'est que c'est un langage universel, c'est que ça touche à quelque chose d'ancestral, ça touche à la magie, ça te transporte. Moi, en effet, il y a quelque chose d'un peu sacré là-dedans et j'ai l'impression que devoir tout raconter... Et c'est ça qui m'a beaucoup déstabilisée. J'étais pas prête à l'exercice quand ça a commencé un peu, que je me suis retrouvée sur les plateaux et tout, parce qu'on me demandait beaucoup de raconter. Pourquoi le personnage, d'où vous venez, est-ce que ce sont vos vrais cheveux? Et j'étais là genre, ah, mais en fait tout est dans mes clips, tout est dit quoi. Donc, et c'est vrai que j'ai la sensation que là on nous demande en permanence, non seulement on doit écrire des chansons, créer l'imagerie, le marketing, tu vois, comment on va toucher les gens avec notre image, avec les photos, penser les clips, être sur scène, faire les tournées et en plus, en effet, être des attachés presse, enfin pas des attachés presse, mais des marketeurs quoi.
Ouais, tout le
on
temps.
On va passer notre temps à nous être faiseurs de contenu et c'est ultra chronophage et par moments ça nous fait perdre. C'est là où je te dis, moi, j'ai perdu pied à un moment parce que, ouais, j'étais que à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'instant maintenant pour exister, pour truc. Pour... Et à un moment donné, j'ai fait, non. En fait, retrouve-toi. C'est pas ça. C'est pas comme ça que j'ai envie de faire ce métier. Enfin voilà, moi j'ai envie de faire rêver les gens, j'ai envie de rester dans un mystère, mais pas un mystère parce que j'ai rien à dire et que je sais pas comment dire, mais juste j'ai envie de rester dans ma musique.
Par ton prisme.
Mon prisme, mon langage, c'est la musique. Tu vois, c'est comme. Le plus grand souvenir de ma vie, la plus grande leçon, on a perdu notre mère, j'avais 19 ans, mon frère a joué à l'enterrement de ma mère, son langage à lui, pour exprimer sa douleur, ça a été la musique. Je lui ai jamais demandé de m'expliquer avec des mots.
Ouais.
Ça a été bouleversant. C'est un exemple très très fort que je prends là, mais c'est exactement ça en fait. Et si on laissait un peu plus de silence dans nos vies et sur les réseaux et sur, tu vois, et que les gens reprenaient soin des silences, on réapprendrait à écouter et à avoir des à écouter d'autres langages que ceux des mots quoi. Il y a tellement d'autres langages et moi ça me manque un peu ça. C'est vrai que j'ai pris le temps aussi entre le premier et le deuxième album. Je suis partie à la campagne pour me retrouver, pour retrouver du sens en fait aux choses qui me touchent, retrouver du lien et retrouver des silences quoi.
C'est trop beau, ça me manque, ça me rend nostalgique du deuxième confinement où j'étais partie dans une maison et où je faisais des cures de silence.
Ouais.
Des journées entières sans parler à personne et qu'est-ce que j'étais heureuse. Puis en plus, même dans l'actu politique, moi à un moment là j'étais en boucle.
C'est beau ce que t'as fait là sur l'antisémitisme. Ah. Ouais, je trouvais ça vraiment fort.
Et bien tu sais ce qui est terrible, c'est que comme la punch elle est... Ah oui, ça c'est l'antisémitisme.
Ouais.
J'ai sorti une vidéo où j'ai fait une blague en disant que le FN... Il fallait qu'ils s'arrêtent de s'approprier des trucs et qu'il fallait que ça soit à nous, en fait, le drapeau français, Jeanne d'Arc, la Marseillaise, que pourquoi c'est un chant de facho. Qu'un sang impur, ça pouvait être les règles, après tout, pourquoi pas, et abreuve nos sillons, le sillon anal, bref, c'est la blague. Mais comme la blague arrive au bout d'une minute, la vidéo a fait moins de vues, parce que la durée moyenne, c'est 20 secondes.
Ouais. Bah nous, en musique, c'est 7 secondes.
Waouh. Les 7 premières
secondes.
Mon
mec travaille maintenant chez Vagram Musique.
Ouais.
Et il me disait ça. Il me disait là les résultats. Il me dit en fait, pareil, faire des clips et tout, ça sert plus à rien. Faut faire juste des
reels.
Ouais, des reels. Ça sert plus à rien d'investir dans des clips.
Et 7 secondes, c'est ce qui va déterminer si les gens accrochent.
Ouais.
Tu te rends compte.
C'est là-dessus que je te dis.
C'est Black Mirror.
Ouais, exactement, on y est. Et c'est là-dessus que moi, je veux pas trop céder. Après, quand je te disais que je suis mélancolique, depuis l'enfance, je le suis. À 7 ans, j'étais terrorisée par la mort, par la guerre. Vraiment, à 14 ans, j'ai fait une dépression assez grave. Tu vois, une crise d'adolescence vraiment sérieuse. Mais je crois que c'est par ces moments obscurs qu'on grandit aussi et qu'on revient vers la lumière, tu vois. Bon, c'est un peu bateau ce que je dis, mais oui. Et en tout cas, là, dernièrement, moi, j'ai été prise vraiment de... Tu sais, de grands moments de mélancolie, d'angoisse. Tu sais, des fois, je regarde un film, La dernière fois, j'ai re-regardé un film, tu vois, genre Dirty Dancing, vieux film et tout. Et je suis prise d'une immense mélancolie en me disant, mais en fait, tout ça, tous ces moments de rêve, ces souvenirs que j'ai de prendre le temps, en fait, de regarder un film, de le découvrir au cinéma, de le découvrir avec mes parents, où on n'avait pas de téléphone dans les mains.
Ouais, c'est très
ça me rend ultra mélancolique. J'ai l'impression que là,
maintenant on pense à la photo pendant qu'on vient au moment où on se dit est-ce que je suis censée faire une photo, est-ce que je fais un post, est-ce
et
que
tu
je...
vis pas vraiment le moment.
T'es dans est-ce que je suis en train de brander ce que je vis.
C'est là où j'adore Jack White qui a, tu sais, sur toute sa dernière tournée interdit les téléphones. Je suis allée à l'Olympia et donc il avait créé un système avec une boîte là qui où tu mettais ton téléphone dans une pochette qui se fermait automatiquement dès que tu rentrais. Et en fait, il n'y a aucun concert où tu as le droit au téléphone. Et c'est vrai que c'est assez fou.
Génial. Oui, parce que maintenant, les gens filment le concert du début à la fin.
Tout le temps.
Et je ne peux pas donner de leçons, parce que je le fais aussi. Je me souviens, j'étais allée voir Angèle et j'avais fait je ne sais pas combien de vidéos que j'avais mis sur Instagram.
Bah ouais.
Mais c'est totalement... Tu te dédoubles, quoi. Il y a deux... Il y a celle...
Bah, t'es jamais réellement à te laisser une fois de plus
transpercer
par le moment quoi et parce que tu vis,
c'est clair.
Donc c'est
sans parler des gens qui en effet font des photographies des œuvres d'art dans les musées, c'est ce truc il y en a qui font tout leur musée comme ça, tout leur musée avec le téléphone allumé. C'est terrible. Ce midi, je déjeunais avec un pote. Il m'a dit qu'il y a un grand théâtreux du théâtre public. C'est pas un intello parce qu'il vient pas de là, mais il s'est retrouvé, tu vois, là-dedans à faire. Mais qui me disait, je passe ma vie sur TikTok.
Ouais.
Je scroll.
Non, mais ça rend addict, ouais. C'est fou. Être addict. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dingo.
Et moi, quand je pense, c'est quand la dernière fois que j'ai ouvert un bouquin. Alors qu'à la base, je suis une grande lectrice. Je lis des livres quand c'est des invités du podcast, mais sinon je prends plus le temps le soir. Si j'essaye, je lis des bouts de Romain Gary.
Ouais, c'est ça.
Un peu pour me raccrocher, mais sinon, non, en fait, sinon on s'endort avec mon copain, un début de série Netflix, puis basta.
Ouais, c'est ça, quoi.
Puis dodo.
Et puis tu t'endors. Ouais.
Déjà, je suis fière quand je trouve le temps d'aller au cinéma.
Ouais.
C'est de reprendre une heure et demie de poésie, un peu.
Ouais, puis de temps où t'es consacré que à une chose, quoi.
Ouais. Oui, tu vas quand même pas
quand tu fais l'amour, et ça, c'est bien.
Et ça, c'est
là
de...
l'amour. Et
là, l'amour.
Bon, après, j'imagine que tu vas peut-être avoir des gens aussi qui se filment, qui prennent en photo.
Il doit y avoir des gens.
Mais, évidemment, mais quand même.
C'est une forme de méditation.
Waouh, le cul, qu'est-ce que c'est bon pour ça.
Ah, voilà, t'es
c'est
dedans.
Même le moment le plus fou, quoi. Plus... Vraiment un cadeau, pareil, cadeau de la vie, mais sublime, quoi.
Ouais.
Tu dis...
Allez. Et voilà. On prend le temps. Mais après, il faut prendre le temps de le faire. Et ça,
tu prends le temps, t'es dans le présent, t'es avec toi, t'es avec l'autre, mais en tout cas, t'es là, quoi. T'es vraiment dans le présent. Je trouve que. Et les concerts, je trouve qu'il y a ce truc-là aussi.
Oui.
En musique, t'as un truc de jouissance, de communion, où tu partages en tout cas des concerts qui vraiment te font vibrer. T'oublies le temps, quoi.
Ouais.
Tu ressors de là, tu fais waouh! T'as voyagé.
Parce qu'il y a l'expérience collective qui nous sauve quand même.
Ouais.
Et que c'est le téléphone, c'est quand même la solitude de soi et d'images qui sont pas réelles.
Ouais.
Le cinéma, les concerts, il y a des gens qui vibrent autour. Et on en a tellement... Ça nous a quand même vachement manqué. C'est un bon... J'ai trop hâte de te voir à la cigarette.
Ça va être génial. Ouais, j'ai trop hâte d'y être là.
Corinne, la qualité que tu préfères chez un homme?
Je dirais la délicatesse.
La qualité que tu préfères chez une femme?
J'irais l'humour.
Le principal trait de ton caractère?
Le principal trait de mon caractère, j'allais dire la lenteur, mais c'est pas mal.
Ouais.
Non, le principal trait de mon caractère, c'est pas facile. Hein, de répondre à ça. Restons sur la lenteur. Mais je sais pas si c'est un trait de caractère. Hein.
Ouais, mais c'est beau, ça devait, c'est bien de le revendiquer.
Ouais.
Ton principal défaut?
Mon principal défaut, c'est que je peux être têtue.
Mmh.
Ouais.
Ton occupation préférée?
Faire la cuisine.
Ah
ouais, j'adore ça. J'adore cuisiner.
Je suis nulle.
Et évidemment, être avec mon fils. J'ai un grand plaisir à jouer avec lui, à me mettre, tu vois, au niveau de l'enfance et de... T'apprends beaucoup, en fait.
Mmh.
Je trouve que le lien à un enfant, c'est vraiment... c'est un échange. Voilà. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Et donc, j'apprends énormément aux côtés de mon fils. Et du coup, dans le jeu aussi. Et ça m'inspire beaucoup. Et c'est des grands moments aussi de revenir dans... L'enfant te ramène toujours à ça. Il est que dans le présent.
Mmh.
En tout cas, à son âge, encore 3 ans, c'est encore des âges où il n'y a pas trop de demain. Il n'y a pas trop de passé. c'est là, maintenant, tout de suite. Et c'est vraiment, je trouve, ça me rassure beaucoup quand je suis avec lui. Ça me ramène à l'essentiel.
Comment aimerais-tu mourir ?
J'aimerais bien mourir en faisant l'amour. Ouais, ou sur scène, enfin un truc fou quoi, une sorte de moment d'extase.
Merci Corinne.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Corinne. J'ai bien vérifié sur Wikipédia et en effet Dawn signifie aurore en anglais, aurore étant le vrai prénom de Corinne. À un moment, je lui offre des invites pour la cigale. Sachez que je me suis un peu fait retrousser les bretelles par mes prods parce que je peux pas non plus mettre des invites à gogo, hélas. On avait justement enregistré la veille, le jeudi, avec Corinne, de mon annonce le vendredi de la cigale. Je me souviens, le matin, j'avais un visionnage avec les prods du montage de la capta de mon spectacle, puis j'avais filé en tournée à Nice, et c'est donc là que j'avais fait la fameuse vidéo face cam pour annoncer la cigale. Comme retour après, on m'avait dit « il aurait fallu que ta vidéo ce soit la légende où tu remercies tout le monde ». Bon, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et je trouve cet épisode du podcast avec Corinne intéressant justement sur le sujet de l'auto-marketing en devenir fou. Après la vidéo dont je parle sur la Marseillaise dans l'épisode, eh ben elle avait finalement bien marché. Comme quoi, faut laisser un peu de temps hein, parfois et pas regarder obsessivement le nombre de vues, de likes toutes les 5 minutes. C'est très dur de s'émanciper d'Instagram, de mettre sur pause sans avoir peur de disparaître. Là, je sais que je vais mettre le paquet sur la cigale, que je vais bastonner de posts, de vidéos, de photos, de reels jusqu'au 26 janvier, puis je pourrai respirer. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je voulais créer le prochain spectacle en mars. Je voulais commencer mon nouveau spectacle en mars prochain et a priori, j'ai décalé à l'automne. Voilà, comme ça, ça me laisse vraiment le temps d'écrire le meilleur nouveau spectacle possible. Même si j'ai déjà pas mal de matière, faut que je réfléchisse à comment l'agencer et je vais beaucoup rôder en province, dans des petits cafés-théâtres, prochainement, là bientôt, les 8 et 9 décembre à Aix, à la Fontaine d'Argent, les 14 et 15 décembre à Paris, à la Petite Loge, dans le lieu de mes tout premiers baby stand-up step. Je l'ai pas annoncé sur Instagram, c'est même pas non plus sur mon site internet, mais j'ai fait partir une newsletter. Si vous l'avez pas reçue, vous pouvez me donner votre mail dans l'onglet prévu à cet effet sur mon site internet ou prendre directement vos places sur le site internet de la Petite Loge. Vous verrez, j'y suis tout au bout, en cachette. Rodage également au Bacchus à Rennes les 12 et 13 janvier. Donc bah, ça va arriver vite, hein, soyez là. C'est rassurant quand vous êtes là. Puis ensuite, il y aura les dernières dates du spectacle actuel dans de grandes salles en province ainsi qu'à la Cigale, évidemment. J'ai hâte que tout ça soit peut-être plus clair, mais je travaille à une com en deux temps. Une com flamboyante pour les dernières dates officielles du spectacle et une com un peu plus en soum-soum sur ce qui nous attend. L'envie m'a aussi reprise d'écrire un nouveau livre. Voilà, ça m'a pris ce matin au réveil. En fait, c'est un spectateur hier soir à Montpellier qui m'a complimenté sur mon écriture et ça m'a flattée, ça m'a fait du bien. Je vais vous confier quelque chose, c'est terrible en fait, j'ai du mal à être... quand on me dit bravo... J'ai du mal à recevoir le compliment. Je crois que ce qui me touche, c'est être préféré à d'autres. Je crois qu'il y a une expression d'ailleurs. Oh, c'est un truc horrible que disait le père de ma mère. Vraiment une expression, c'est tout sauf positif. Hein. Il disait « plus je me compare, plus je m'aime ». Voilà, donc vraiment à ne pas appliquer pour être une bonne personne. Mais le spectateur hier soir à Montpellier m'a dit qu'il me préférait à Paul Mirabel et à Roman Frécinet. Et voilà, c'est con, ça m'a... Ça m'a flatté, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. J'en ai besoin. Voilà, donc pourquoi pas un prochain livre. En fait, qu'un spectateur me dise que j'écris bien et que eh ben, ça m'a... Je sais pas, ça m'a donné confiance. Il y a des projets comme ça qui naissent avec ce petit coup de pouce de confiance et d'autres que j'arrête. Par exemple, le projet de série. Je sais qu'il y a des diffuseurs qui sont encore venus au spectacle, mais ça a trop traîné. Enfin, j'ai besoin d'immédiateté, de simplicité. Donc ça, j'y ai mis fin, définitivement. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un film, je crois, vraiment, plus qu'une série. Et voilà, vous l'avez peut-être constaté, il y a des choses qui s'arrêtent et d'autres qui voient le jour. Et je préfère m'attarder quand même sur ce qui continue. Voilà, avec un peu de distance, je reviendrai sur les expériences qui se sont arrêtées. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravie d'avoir le podcast, de continuer le podcast et d'être passée à un épisode toutes les deux semaines. Voilà, vraiment, ça me permet de souffler et c'est parfait maintenant comme rythme. Ça me laisse un peu d'avance. Et je suis très heureuse aussi de continuer à faire des chroniques dans Zoom Zoom Zen sur France Inter. C'est beaucoup de travail, mais j'adore, ça me passionne. J'ai de bons retours, pareil, ça m'encourage. Il y a un truc que je fais qui est malsain et qui me rend malheureuse, mais je peux pas m'empêcher de regarder sur YouTube les scores des autres vidéos, des autres chroniqueurs. Et quand ils font plus de vues que moi, et ça arrive, bah, je suis triste. Voilà, je me fais du mal inutilement en me comparant. Ça peut autant finalement me flatter que me détruire. Et donc j'essaie de me répéter, Rosa, la reconnaissance doit venir de toi, pas de l'extérieur, mais c'est dur. Voilà, je me moque de la pensée positive dans mon spectacle, mais j'aimerais m'y astreindre quand même un peu dans la vie. C'est un process, je sais pas où vous en êtes, mais je vous embrasse bien fort, merci d'être là.
J'aime le chocolat. Oui, mais quoi? Ça t'étonne? J'aime le chocolat au lait, mais surtout le chocolat noir. Dense, intense, brut, raffiné. La plongée, j'aime la plongée. Bah oui, c'est vrai, tu trouves pas? J'aime la plongée. La plongée en eau douce, mais surtout la plongée en eau salée, profonde, sombre, mystérieuse. Mais pourquoi là? Tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi là? Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît viens chez moi. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi là? Tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi là? Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît viens chez moi.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.